Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Et avec aujourd'hui Philippe Manière, le président de Veille-Solis Communication, Guillaume Poitrinal, fondateur de WO2, auteur de Pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action, chez Stock. Gilles Raveau, maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis, auteur de Économie, on n'a pas tout essayé au seuil. Et puis Philippe est l'auteur du Pangolin et l'ISF, comment le monde d'après nous rend tous fous, aux éditions de l'Observatoire. Et c'est le slip français qui a fait réagir sur mon Twitter.
On n'en a pas parlé, c'est ça qui les intéresse, c'est pas
mais
toi.
Mais non, mais je te dis, le jour où il y aura l'article du Parisien, les Chinois ont tué le slip français, oh, émotion. Bon. Et voilà. Le problème, c'est qu'ils divisent leur prix par deux parce qu'ils sont en train de...
Justement, ils divisent leur prix mystérieux. Par deux, oui. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que la demande pour le slip français est élastique au prix?
Ça, c'est très fort.
Mais c'est vrai.
Je l'attendais.
C'est ça la question.
Il a raison.
Je l'attendais, elle est très forte. Ceci dit, moi, j'invite tous les auditeurs de BFM à se jeter sur leur portable pour acheter...
BFM Business.
Business.
Du slip français.
Mais tous aussi.
Ouais, ouais, tout à fait.
D'acheter du slip français, parce que c'est une aventure formidable, c'est de grande qualité. Moi, j'en ai, mais on a du mal à les trouver. Et j'ai essayé d'en acheter sur Amazon à l'instant, pendant la pause, et j'ai pas réussi. Donc, je lance un appel aussi au patron du slip français. Il faut qu'il soit, quand qu'il annonce qu'il baisse ses prix par deux, il faut qu'il soit en première page d'Amazon, au moins sur la recherche slip français, si ce n'est slip, mais au moins slip français. Je pense qu'il peut s'acheter ça.
Vous réagissiez avant même que j'ai terminé, Philippe Manière. Éric Coquerel est président LFI de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale. Il s'exprime dans les Échos. Il faut... Alors, hier, on avait le débat. Il y avait Gilles Berset, il y avait Xavier Timbaud et je ne sais plus qui était là hier encore. Et Léonidas Kalogeropoulos. J'en ai quelques-unes quand même, des femmes. Pas assez, c'est vrai. Mais... Donc, bref, on a eu le débat. Est-ce que notre enjeu de finances publiques se fera avec de la baisse de dépenses ou de la hausse d'impôts? Et là, ben, pour Éric Coquerel, c'est clair, on taxe les rachats d'actions, on taxe les superdividendes, on remet en place l'exit tax, on augmente la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique ramené enfin à 30% en 2017, et puis bien sûr, l'éternel crédit d'impôt recherche, la cible...
Non mais bon, on ne sait plus quoi dire, c'est-à-dire qu'il y a quelques points techniques, on va y revenir, mais pour l'essentiel, c'est le retour des vieilles lunes, par exemple la nationalisation de Total.
Enfin, ça c'est un truc, autre point
c'est
encore.
C'est un truc lunaire, au passage avec quel argent
Total, il faut 160 milliards.
Non mais bon, donc on est dans le n'importe quoi intégral. Alors, si on prend le sujet fiscal spécifiquement, quand même important, la France est un des pays, pour ne pas dire le pays, qui taxe le plus au monde. On devrait être extrêmement prospère si c'était ça la recette. On est par ailleurs celui qui dépense le plus au monde. Oui. Donc si c'était une réponse satisfaisante, on devrait avoir un taux de chômage à peu près nul, prospérité générale, les gens qui chantent nus en sautant dans les rues avec une marguerite entre les dents. Etc. Donc c'est pas tout à fait le cas, ce qui montre bien qu'on a potentiellement pas trouvé le bon mix avec des dépenses très élevées et une fiscalité très élevée. C'est juste l'observation. Donc quelqu'un qui vient en vous disant j'ai bien réfléchi et en regardant ça, c'est un pays où on taxe beaucoup et on dépense beaucoup, je pense que la solution, ça serait surtout pas de réduire la dépense, mais plutôt d'augmenter les impôts. Je sais pas, pardonnez-moi, mais en première année, j'ai envie de dire, faut qu'ils consultent. Ça n'a absolument aucun sens. C'est absurde.
Le sens politique, c'est taxer les riches. C'est effacer le macronisme et taxer les riches.
Je vois bien le sens politique.
Terminé, Philippe.
Sur les rachats d'actions, c'est un truc extrêmement drôle, parce que précisément, vous avez dit, en France, il y a le prélèvement forfaitaire unique. Moi, c'est un des rares trucs que je mets à l'actif d'Emmanuel Macron. Non seulement parce que ça a permis de baisser un impôt qui était incroyablement trop élevé sous Hollande, mais aussi parce que ça a homogénéisé la taxation de toutes sortes de revenus, en particulier entre revenus du capital classique, sous forme d'intérêts ou de dividendes, et plus-value. C'est le même taux de taxation. Donc, c'est-à-dire que les rachats d'actions, ils sont taxés de la même manière en France. Pourquoi il y a des rachats d'actions aux États-Unis? Pourquoi ça prospère? Parce qu'il y a une différence de taxation. Donc, il vaut mieux pour l'actionnaire qu'on vous rachète vos actions plutôt que de recevoir du dividende. En France, c'est kiff-kiff. Donc, ça n'a pas d'importance. Et surtout, on va pas épiloguer là-dessus maintenant, mais ce serait trop long, mais enfin, cette démonisation du rachat d'actions témoigne d'une absolue incompréhension du mécanisme de fonctionnement de la rémunération de l'actionnaire. Ça n'a pas d'importance qu'on rachète des actions ou pas, parce que sinon on verserait du dividende. Ça n'a pas d'impact sur l'investissement, parce qu'il est fait bien en amont du calcul du bénéfice distribuable. Ça n'a pas de bénéfice pour le bénéficiaire, parce que pour le bénéficiaire qui touche du rachat d'actions ou du dividende, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de différence. Et pour finir, je voudrais dire un truc, parce que 90% que je rencontre ne le savent pas. Payer un dividende à quelqu'un, ça ne l'enrichit pas un instant. Je ne sais pas si vous avez déjà observé, le jour où il y a un détachement de coupons sur n'importe quel titre en bourse, bah, mécaniquement, le titre, le lendemain, il vaut ce qui valait la veille, moins la valeur du dividende. Donc il faut se sortir,
le rappeler, ça.
Il faut se sortir de la tête. Mais pardon, mais personne ne le sait ou
pas. Oui, mais il faut rappeler, mais moi je le dis souvent de manière un peu caricaturale, l'action vaut 100, je donne 2 de dividende, l'action vaut 98.
Dans la seconde. Donc pourquoi considérer que le dividende est un enrichissement de quiconque? Je n'ai jamais compris.
Parce que cette idée s'est installée.
Bon, donc il faut se sortir de la tête, c'est du bullshit, c'est pas là qu'est la solution. Tout ce qu'on vous raconte sur le sujet est absurde et c'est en passage très bon pour le marché que de temps en temps quelqu'un qui n'a plus besoin de capital le restitue au marché pour que quelqu'un qui en a besoin l'y trouve.
Okay. Moi j'ai fait un énorme rachat d'actions quand j'étais patron d'Unibail. Et j'ai fait maigrir.
Pour quelle raison vous le faites alors?
Je l'avais fait parce qu'on avait vendu Cœur Défense, qui était à Lehman Brothers, juste avant la faillite de Lehman Brothers.
Immeuble, et on s'est retrouvé. Immeuble colossal au cœur de la défense.
On s'est retrouvé avec 1 milliard de liquidités et donc j'ai redonné, à travers du rachat d'actions, à travers aussi un dividende spécial, j'ai redonné beaucoup de capital à mes actionnaires. Et donc j'ai fait maigrir la boîte. Et je vois pas où est le péché.
Non, il y en a pas.
Cet argent, mes actionnaires, qu'est-ce qu'ils ont été faire avec? Bah, ils ont racheté frais immobiliers, ils ont racheté du Altarea, ils ont racheté des concurrents. Tant mieux, les concurrents ont fait des augmentations de capital qui leur ont permis d'aller. Moi, j'avais juste estimé qu'on était trop gros. Il y avait trop d'argent, en fait, dans la boîte. Eh bien ça, aujourd'hui, par les politiques français de droite et de gauche, c'est considéré comme un gros mot. Le dividende, le rachat d'actions, le dividende spécial, etc., c'est considéré comme un gros mot. Mais c'est juste rendre de l'argent qui appartient, et là, Philippe Manière a tout à fait raison, qui appartient aux actionnaires, leur rendre aux actionnaires. Mais franchement, où est le problème? Où est le crime derrière ce truc-là? Et moi, je ne comprends pas. Alors là, on dit que c'est un immense péché. Je pense que c'est beaucoup d'ignorance des mécanismes de base de l'économie et de la finance.
Gilles, bravo. Baisser les dépenses, monter les prélèvements. On avait le débat hier.
Moi, ce que je voudrais rappeler, c'est que Éric Coquerel, il est interviewé en tant que président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Que c'est une très bonne chose dans la démocratie que, traditionnellement, les présidents de commission de finances appartiennent à l'opposition. Je rappellerai que si on était dans une démocratie un tout petit peu saine, il y aurait un projet de loi de finances rectificatif. Et donc voilà, je veux quand même rappeler ça, parce que le budget 2024 va être très très faux.
C'est très juste.
Et donc là, il y a un problème démocratique qui n'est pas du tout secondaire.
Indiscutable.
C'est tout à fait intéressant aussi de noter que, là aussi, sur le plan effectivement strictement politique, il avance un certain nombre de propositions en disant qu'il y a des majorités pour certaines. Il propose, moi je trouve que sur le plan procédural, ce qu'il propose en disant après l'élection du Parlement européen, de faire une espèce de convention, de mettre les discussions, de voir, etc., et de voir s'il y a des majorités sujet par sujet au niveau, c'est totalement sain dans une démocratie. Donc ça, je souhaiterais, j'y crois pas une seconde, mais je souhaiterais que Emmanuel Macron et le gouvernement aient l'intelligence de respecter un minimum le Parlement, parce que on pleure beaucoup sur le vote, l'extrême droite, l'effondrement de la démocratie, mais enfin il y a quand même des choses de base qui sont pas faites dans ce pays. Emmanuel Macron est comme les autres de ce point de vue là il y a aucune différence, mais ça devient de moins en moins drôle. Et par contre donc j'ai commencé en disant que notre industrie allait mourir. Ensuite, je vous ai dit qu'on allait tous mourir avec l'effondrement écologique pour des raisons très profondes. Et maintenant, je voudrais rappeler que Emmanuel Macron va nous laisser une ardoise budgétaire absolument hallucinante et qui fait que rien que sur ce plan-là, on est condamné à des choses extrêmement compliquées. Et là aussi, j'alerte là-dessus depuis des années, contre mes amis de gauche, pour qui la dette, c'est pas grave. Si, c'est très grave. On est dans un monde à très faible croissance. Les taux d'intérêt les taux d'intérêt réels sont redevenus positifs, puisque la Banque Centrale Européenne va les baisser très très lentement et donc on va avoir un effet boule de neige sur la dette qui est évident. On n'a pas de croissance parce qu'on n'a pas d'industrie. On a une population hyper vieillissante, on a des frais de santé qui explosent. Enfin, le rapport entre la base productive du pays et les dépenses sociales devient complètement fou. Enfin, je veux dire, on est dans une situation complètement folle en France. Nicolas. Et je rappelle quand même que, et je le regrette très fortement, parce qu'il y a eu un seul programme économique d'Emmanuel Macron, c'est celui de 2017. C'est effectivement la forte baisse de la fiscalité, c'est la Startup Nation. Et le fait est que ça n'a pas marché. Là, on est aujourd'hui, on célèbre la fin du premier septennat d'Emmanuel Macron. Et ben, les résultats ne sont pas du tout là. Et donc, effectivement, on a d'un côté des énormes pertes de recettes fiscales, hein, sur cumulé, on parle de centaines de milliards, et la réindustrialisation n'a pas lieu, l'innovation n'est pas là. Et le plus grand échec d'Emmanuel Macron, et encore une fois, j'aurais vraiment préféré que ça soit pas le cas, qui est caché par l'euro, c'est le déficit commercial. C'est-à-dire que la France s'effondre dans les parts de marché au niveau mondial, au niveau européen. Il n'y a absolument plus rien qui va dans notre pays, et je vous épargne le couplet habituel.
Il n'y a plus rien qui va, et en plus, Gilles nous dit j'ai pas de solution. Alors, j'ai un auditeur qui dit allez plutôt sur laredoute.fr que chez un Américain pour acheter le slip français.
Eh ben, on ira sur laredoute.fr. On ira sur laredoute.fr pour acheter le slip français.
La redoute sauve la France.
Toutes ces mesures-là, j'ai demandé. L'ambition de M. Coquerel, c'est d'aller gagner 16 milliards de plus de prélèvements. Donc en fait, on revient en arrière, hein, on arrête la flat tax, on refait tout ça, etc. Je pense, j'imagine que là-dedans,
non, il augmente l'ISF.
Il augmente le taux.
Il dit pas ISF. Là.
Il a raté, mais en général, ça va venir parce que généralement, c'est quand même ça vient avec. 16 milliards d'euros. Le déficit de l'État français, c'est 170 milliards d'euros. 170 milliards d'euros. Le déficit de l'État français, par ménage français, c'est 5 000 euros par an. 5 000 euros empruntés aux générations suivantes. 5 000 euros par ménage français par an empruntés aux générations suivantes. La réalité, c'est qu'en fait, nous dépensons trop d'argent public.
Bien sûr.
C'est une réalité qui est évidente, elle est connue. Nous avons, et nous le finançons à travers un déficit qui est abyssal, qui n'est pas le record parce qu'il y a toujours les États-Unis, je suis d'accord, mais les États-Unis, ils ont de la croissance pour payer leur déficit. Nous, on n'a plus de croissance. Et là, d'accord. Et avec un record de prélèvements obligatoires à 48%, qui est juste 15% au-dessus de la moyenne de la zone euro. Ouais. Donc, nous sommes les recordman de l'impôt dans la zone euro. Il se trouve encore des femmes et des hommes politiques pour dire il faut plus d'impôts, mais on s'arrêtera où?
Ce qui me frappe, évidemment, ce qui va évidemment se passer, c'est qu'il va y avoir des hausses d'impôts. Et je vous rappelle que le gouvernement, on en a déjà parlé ici, a déjà décidé des hausses d'impôts, puisque les baisses de remboursement sur la santé, c'est une hausse de la fiscalité. Donc en fait, on peut crier tout ce qu'on veut, pouvez-vous moquer de la gauche, etc. Ça me va très bien, mais le fait est que le gouvernement lui-même
pas de la gauche, la
va évidemment, d'une façon plus ou moins cachée,
c'est clair, ça a commencé,
augmenter les impôts. Et moi, je suis, ce qui me rend très triste, c'est de dire... Le décennat d'Emmanuel Macron a commencé par la fiscalité. Toutes ses premières mesures, c'était que de la fiscalité, ISF, la taxe. Et là, on va encore parler que fiscalité pendant 2 ans, qui n'est pas, je suis désolé, le premier problème du pays. Le premier problème du pays, c'est encore une fois les services publics et la base productive.
Et la formation.
Et au bout de 10 ans, on n'aura pas avancé sur la transition écologique. Nos services publics continueront à s'effondrer. Enfin, le bilan est catastrophique. Bon. Catastrophique.
On aura relancé le nucléaire.
C'est déjà pas mal, hein.
Même pas sûr.
C'est pas si simple.
Si, mais on peut pas mettre au crédit la relance tardive du nucléaire sans mettre au débit les 2 ou 3 ou 4 premières années pendant lesquelles on continue à fermer
et à fermer
l'horizon à l'industrie nucléaire. Donc c'est une sorte de petite miséricorde finale à un très gros péché originel.
C'est dû en même temps, mais en temps successif en fait.
J'ai quand même un peu de mal. Bon, la vision que vous avez est ultra négative, mais
moi je suis d'accord avec Gilles, hein, ouais. Il n'y a pas grand-chose qui va, il faut être honnête. Hein.
J'ai quand même le sentiment que 10 ans de politique de l'offre depuis le CICE, ça a quand même produit des résultats pas mauvais.
Oui, un peu.
J'ai le sentiment qu'on a encore des atouts. On a encore la meilleure matière grise du monde.
Pas du tout.
Je parle pas de PISA, je parle des esprits les plus brillants sont les esprits français qui sortent des grandes écoles.
Ils sont pas en France.
On les retrouve partout dans le monde.
Voilà. Ils sont pas en France.
Allez voir comment s'appelle celui qui s'occupe de l'intelligence artificielle de Google aujourd'hui ou de Facebook.
On l'a vu avec les vaccins.
On
l'a vu avec les vaccins.
On l'a bien vu avec les vaccins.
Bon.
Et les prix Nobel, les derniers prix Nobel français, c'est tous des gens qui sont à l'étranger.
Monsieur
physique, chimie.
Hier, j'avais un invité, Gilles Berset, qui disait il est venu le moment de remonter la TVA dans la restauration.
Mais il a raison.
Et de commencer à faire payer un peu les retraités. Les retraités bénéficient de l'abattement pour frais professionnels de 10%.
Moi, je pense que monter le niveau global de la pression fiscale en France, pour toutes les raisons qu'on a dites depuis une demi-heure, c'est absurdissime. En revanche, il y a un certain nombre de niches fiscales en France qui sont intellectuellement indéfendables, qui sont créatrices de distorsions et d'inégalités. Alors, j'ai déjà ici, je ne vais pas recommencer, fait un certain nombre de couplets pour dire qu'il fallait absolument taxer la plus-value de cession sur la résidence principale. Cette exonération me paraît une absolue folie. ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Et ça, c'est une prime aux gens qui ont eu la chance d'avoir de l'argent que leur donnaient leurs parents. Je ne vais pas élaborer.
Et puis l'amortissement. Alors, Philippe Manière, il oublie toujours aussi une deuxième aberration, c'est l'amortissement. Pas de la résidence principale, puisqu'elle est. Mais l'amortissement de la résidence secondaire. Où on vous dit surtout garder 35 ans votre résidence secondaire si vous voulez payer zéro impôt à la sortie.
Bon, donc, tout ça, c'est des.
La prime à l'immobilité.
Tout ça, c'est des gaudrioles. L'exonération, effectivement, les 10% donnés aux salariés, aux retraités pour frais professionnels, mais que l'oxymore n'ait même pas fait hurler de rire tout l'hémicycle le jour où ce machin-là est passé devant les députés, et quand même, donne à penser. Quoi. C'est insensé, c'est indéfendable. Et effectivement, pas viser la restauration plus que d'autres, mais il y a des TVA réduites, il y a des TVA spécifiques qui visent des secteurs qui n'en ont nul besoin parce qu'ils sont non délocalisables, parce qu'ils peuvent tout à fait. Ils ont d'ailleurs des taux de marge qui sont en moyenne assez élevés. Donc, je ne vois pas de bien fondé à cette dérogation. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait mettre à plat et qui seraient effectivement productrices d'un peu de recettes fiscales.
Oui. Et dans
je finis juste, Guillaume. En face de ça, je mettrais une baisse du taux général. C'est-à-dire qu'on ne peut pas boucher les trous parce qu'il faut s'interdire d'augmenter les prélèvements fiscaux au total dans un pays qui en est déjà le recordman.
Exactement. C'est-à-dire, en fait, on veut tous, et tout le monde veut, une assiette la plus large possible et des taux comestibles. Mais là, par exemple, on va parler d'immobilier, puisque vous voulez me lancer sur monsieur
Je vais vous lancer.
C'est une excellente illustration de nos propos.
Cet auditeur me dit, oui, effectivement, la baisse du remboursement de santé est une hausse d'impôts. Bon, d'ailleurs, elle est entrée en vigueur le 1er avril. On est passé demain à 2 euros de reste à charge sur le Toubib.
Non, mais c'est pas vraiment une hausse d'impôts. Ça veut dire que les Français vont payer un peu pour leur santé. C'est peut-être pas plus mal. La santé est totalement gratuite, c'est pas non plus la solution.
Là où j'ai la raison, c'est que quand l'État te prend du pognon ou quand il t'en redonne moins, à la fin, l'effet est un peu le même.
Oui, d'accord, mais c'est pas des impôts, c'est pas des prélèvements obligatoires.
Oui, mais j'ai eu ce débat avec Gabriel Attal la dernière fois. Oui, ce sont pas des prélèvements obligatoires.
Je suis désolé.
Bon, allez-y.
Pourquoi l'immobilier ? Pourquoi c'est intéressant ? Parce que dans le même temps, qu'en effet, on est en paradis fiscal sur sa résidence principale, on est en enfer fiscal quand on devient bailleur. Et là, vous allez me parler, évidemment, des mesures de la loi Kasbarian. Les mesures de la loi Kasbarian,
il fait les transitions tout seul et formidable.
Oui, mais Léonidas, je vois que l'heure
tourne.
Hier, Léonidas était là. Il voulait absolument parler du statut des auto-entrepreneurs pendant les JO. Il a vu qu'il restait 6 minutes 14. Il a pris la transition tout seul.
Bon, en fait, l'enfer fiscal du bailleur, il faut quand même en parler 2 minutes, puisque M. Kasbarian fait le bon constat. Il dit il y a un problème d'offres, il y a un problème de production. Et donc, il y a un problème, tout simplement, de montant de capitaux aussi, et surtout en ce moment, on a une crise du capital, on a une crise de l'investissement sur ce marché, et donc nous avons des baisses de production de logements qui sont dramatiques et qui vont poser un problème social absolument dramatique d'ici quelques années, puisque les jeunes ne peuvent plus se loger. Et on pourrait regarder le système en disant d'un côté paradis fiscal pour le propriétaire souvent retraité d'ailleurs dans le truc qui va vendre son truc, et de l'autre côté enfer fiscal pour celui qui, au lieu de mettre de l'argent dans cette autre niche fiscale qu'on appelle l'assurance vie, choisit de mettre un petit peu d'argent dans des studios pour louer pour des étudiants et qui se retrouve avec le cumul de l'impôt sur le revenu, le cumul des taxes locales, avec un encadrement des loyers derrière pour lui diminuer le truc, et puis s'il a vraiment pas de chance, un IFI, quand on cumule l'impôt sur la fortune immobilière pour ceux qui ont la chance de le payer avec l'impôt sur le revenu, nous sommes le seul pays où le rendement net de l'immobilier locatif est négatif.
C'est dingue. C'est
Il
dingue.
Est négatif.
Et après, on s'étonne que ça construise pas.
Et comment est-ce qu'on peut s'étonner qu'on ne construise pas alors que le rendement locatif net après tous ces impôts est négatif pour l'investisseur ? Donc, il y a un vrai problème. Il faut ramener de l'argent très, très vite sur la construction. Il faut simplifier les normes. Il a raison, monsieur Kasbarian. Il a raison de s'attaquer aux recours abusifs parce que, évidemment, tous les permis, et c'est le sport national, les permis sont attaqués et les gens gagnent de l'argent à raison de faire perdre du temps. Mmh. Très souvent, encore l'autre jour, hier, pas plus tard qu'hier, un grand groupe du CAC 40 qui regarde un de mes permis de construire. Parce qu'on est quelque part dans une zone un peu dense. Et l'avocat de ce grand groupe du CAC 40 dit, vous avez de la chance, finalement, on va pas faire de recours. Je lui dis, c'est quand même la moindre des choses, puisqu'on améliore, en fait, votre paysage et on n'accroît pas la volumétrie du bâtiment qui est en face du vôtre. C'est quand même la moindre des choses. Mais ce même avocat de cette boîte du CAC 40 dit, mais néanmoins, votre permis est parfait, je l'ai étudié. mais on pourrait quand même vous bloquer 5 ans si on voulait. Oui. Donc c'est vraiment
chantage,
très gentil.
C'est du chantage assumé.
C'est
quoi.
Du chantage. Donc il faut arrêter ce chantage.
La loi Kasbarian, elle apporte des réponses à tout ce que vous soulignez.
Elle apporte quelques réponses, elle ne va pas assez loin. Et notamment sur un thème que j'aime, qui m'est cher, c'est la vraie simplification administrative. Aujourd'hui, ce qui nous ralentit dans l'acte de construire, évidemment les recours, mais aussi la complexité administrative. Du PLU qui, je le rappelle, n'est plus dans la main du maire. Donc il faut aller voir monsieur le maire pour obtenir le permis de construire. Mais quand on veut bouger le PLU, là, parce que il y a une petite modif, on n'a plus besoin de bureaux, il faudrait mettre du logement, c'est ça qui aurait du sens. Il faut aller voir l'intercommunalité en priant et en mettant des cierges à Notre-Dame, ça rouvre en décembre, en mettant des cierges pour être sûr que le patron de l'intercommunalité n'est pas l'ennemi juré du maire, parce que sinon, votre modification de PLU, vous allez pouvoir l'attendre pendant 5 ans.
Ce qui est assez classique d'ailleurs, cette détestation entre les deux.
Il y a un problème de démultiplication des autorités. Tout le monde s'occupe d'urbanisme dans ce pays. Tout le monde s'occupe d'enquête faune et flore, l'autorité environnementale, les 4 saisons. On a accumulé les contraintes administratives sur cette production et après on s'étonne qu'en fait cette production, tout simplement, elle est morte. C'est la collectivisation de l'immobilier qui fait qu'il n'y a plus de production. Nous avons collectivisé l'immobilier, il est surréglementé, le locataire est surprotégé, il est surimposé et la production elle met beaucoup de temps pour arriver. Et voilà comment on arrive à un déséquilibre. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait en encadrant les loyers, qui est une des réponses, ou alors en créant du logement social, qui est une autre réponse? On est en train de colmater, c'est la jambe de bois, mais qu'est-ce qu'on fait? On crée des inégalités, on crée des injustices, parce qu'il y a ceux qui ont la chance d'être avec un loyer encadré, puis il y a tous ceux qui sont à la porte et qui, eux, vont aller dans du Airbnb, qui, eux, vont aller dans du co-logement, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a ceux qui ont la chance.
C'est l'une des mesures fortes de la loi Kasbarian, justement.
Il y a d'aller, un petit peu bouger tout ça. Bon. Il a raison, Kasbarian.
Bon. Donc cette loi a des éléments que vous saluez.
Toute l'hyper-réglementation ça vient d'être évoqué de manière tout à fait éloquente par Guillaume, donc je ne vais pas y revenir. Je pense que c'est des sujets aussi, pardon de le dire, parce que ça va de soi quand on connaît le sujet, mais ça ne va pas de soi pour beaucoup de gens qui nous écoutent, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de paradoxes sur ce type de marché. En particulier, Guillaume vient de faire allusion au problème du blocage, de la surprotection des locataires. Il y a une étude que je vous recommande de lire, qui doit maintenant valoir une quinzaine d'années, qui a été faite par Étienne Vasmer, qui est un économiste parfaitement respectable.
Actuellement sur la désmicardisation.
Absolument, et qui n'est pas un ultralibéral échevelé. Hein. Et qui avait fait, si je me rappelle bien, chez En Temps Réel, peu importe, il avait fait un travail qui était super intéressant, qui consistait à analyser une réforme qui avait été faite au Québec, le Québec qui est traditionnellement à peu près aussi socialisé, hyper réglementeur, hyper fiscalisateur que la France. Hein. Et au Québec, ils s'étaient rendu compte qu'il y avait un problème de logement, d'accès au logement, et ils ont, du jour au lendemain, levé toutes les protections du locataire avec une autre protection qui est venue en substitution, qui est assez simple. C'est-à-dire, si le locataire ne paie pas, il y a ce qu'on appelle la régie, si je me rappelle bien, qui réunit le locataire et le bailleur, et ils se mettent d'accord, ils ont 3 mois pour trouver une solution d'étalement, de suspension, etc. Et si la régie n'arrive pas à les mettre d'accord, à la fin des 3 mois, le locataire est expulsable et expulsé. Parce que en France, il est expulsé. Quand il est expulsable, il n'est pas expulsé. Le concours de la force publique n'est quasiment jamais accordé à un bailleur qui demande l'exécution d'un jugement.
C'était le combat de Kasbarian lorsqu'il était député.
Donc ce que je vais vous dire, c'est que le résultat, c'est quoi? C'est qu'au Canada, enfin au Québec, 6 mois plus tard, il n'y a plus de problème de logement. C'est-à-dire qu'on ne veut pas le croire, parce qu'on veut tous protéger le faible. Et objectivement, mais sur un marché du type logement, entre le bailleur et le locataire, c'est le locataire qui apparaît comme étant la personne faible. Mais si vous le surprotégez, alors tout simplement, vous n'avez plus d'offre.
Donc en Argentine, aujourd'hui, c'est ce qui se passe.
Oui,
Robert Ribaton l'a dit ce matin, qui est quelqu'un de modéré. La libéralisation, aujourd'hui, Argentine, qui fait qu'ils ont dit quoi? Ils ont dit, c'est assez simple. En fait, d'abord, on baisse un peu les impôts, d'accord? Donc ça va donner envie aux gens de louer, et après ils ont dit vous pouvez louer, il n'y a plus de réglementation sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an, sur 10 ans, sur 100 ans, il n'y a pas de problème, vous signez ce que vous voulez. Et tout d'un coup, l'offre est arrivée et les loyers baissent. Il a supprimé l'encadrement des loyers. Le président argentin, les loyers baissent.
Et donc à l'arrivée, on a fait le bien du locataire en faisant sauter les protections légales qu'on lui avait accordées, mais qui étaient contre-productives.
Que l'offre arrive, voilà. C'est l'offre qui doit arriver.
Javier Milei, il a une bonne solution face aux dépenses publiques.
Hein. Non, mais vous avez vu, il a des qualités. Hein.
Oui, alors il y a certains Argentins, j'aimerais pas être à leur place. Hein.
Moi, je suis pas fan de l'idée de parler à son chien mort. Mais pour le reste, j'ai assez peu de réserves sur la politique qu'il met en œuvre.
Là où je suis assez d'accord avec Philippe, c'est que c'est vrai que je pense vraiment que le fascisme est l'avenir. venir et qu'on va avoir la chance de le vivre bientôt en France.
Non, je ne dis pas ça. Je parle de la politique économique et puis je ne sais pas si on peut le qualifier fasciste.
Je pense vraiment.
Il y a des choses effectivement qui, par lui ou par d'autres, ont été mises en œuvre et qui fonctionnent et qui sont contre-intuitives. C'est on libéralise et tout à coup ça marche.
Moi, ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est les comparaisons internationales. En général, vous dites n'importe quoi parce que vous comparez deux pays et vous connaissez mal les deux pays. Voilà. Moi, c'est ça que je vous dis.
Gars, il y a des. Tu coupes à la serpe dans les dépenses publiques, tu as effectivement un effet rapide.
Mais très rapide.
Alors moi, je peux te prendre la solution grecque. C'est deux points de TVA. Ouais. Tu baisses les pensions de retraite, tu baisses le salaire minimum.
Les salaires des fonctionnaires.
Là, c'est bon.
Et t'as une résurgence des épidémies, c'est génial. Et ta jeunesse qui s'exode, c'est vrai que c'est génial.
C'est une autre question, parce qu'effectivement, devoir régler un problème de déséquilibre budgétaire et de dette, ça oblige à prendre des mesures comme ça, qui ont un effet antisocial énorme et durable. Là, ce dont on parle, c'est autre chose. C'est-à-dire, quand on fait sauter des réglementations protectrices, il y a un mauvais moment à passer, généralement très bref si on est radical, et un bénéfice extrêmement considérable sur le moyen et le long terme. Mais le moyen terme, en fait, on y arrive assez vite. Et ça, c'est encore une fois bien documenté. On n'est pas le premier pays qui a une impasse identitaire, budgétaire, organisationnelle, économique. Il y a eu la Suède, il y a eu le Danemark, il y a eu le Canada, là, il y a eu la Nouvelle-Zélande, il y a eu les États-Unis et le Royaume-Uni.
Vous avez vu l'état de la Suède aujourd'hui ?
Des pays de gauche, des pays de droite. Moi, je parle des réformes qui ont été faites par Göran Persson il y a 25 ans, pas de la Suède d'hier. Quelques années, tous les gens qui ont fait ça ont obtenu une augmentation de la croissance et une réduction de tous les blocages qui avaient des conséquences.
Mais si c'était pas aussi compliqué de louer, si c'était pas aussi compliqué de louer un bout d'appartement, une chambre, etc., je peux vous dire qu'on aurait une offre pléthorique. Aujourd'hui, l'offre est en train de disparaître. À Paris, l'offre locative est en train de disparaître. Il faut quand même le comprendre.
Bertille Bayard, ma consoeur du Figaro, écrit « Nationaliser Total s'il part ce côté à New York, comme le dit Eric Coquerel dans Les Échos, le groupe a le statut de société européenne, il sera parti plus vite que le Parlement aura voté une loi. »
Non, mais de toute façon, ce qui est très drôle, c'est qu'on n'a évidemment pas les moyens de le faire.
Enfin, 167 milliards de valo aujourd'hui.
L'idée est absurde et en plus, elle est irréalisable.
Mais je ne peux pas croire que ce soit l'ambition des dirigeants de Total de bouger Total. Total, elle a été faite par la puissance publique très largement.
On parle de la cotation.
Je pense que la cotation, c'est différent. Bon. D'abord, entre vous et moi, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un peu cocorico parce que tout se passe derrière des ordinateurs.
Oui, mais donc, ça veut dire que
le clearing soit fait par NYC ou par.
L'action principale est aux États-Unis. Tandis qu'actuellement, c'est un certificat de dépôt aux États-Unis. Bon.
C'est une boîte qu'il faut arrêter d'insulter, c'est une boîte qu'il faut arrêter d'agresser, c'est une boîte qu'il faut encourager à faire davantage de transition énergétique, qu'elle n'en fait, probablement elle n'en fait pas encore assez, et elle doit s'intéresser notamment, c'est un appel que je lui lance, à la géothermie. La géothermie, c'est l'espoir de demain. La géothermie, c'est l'énergie renouvelable qui est à la fois pilotable et continue.
C'est vrai.
À la grande différence des éoliennes et du photovoltaïque, la géothermie, c'est absolument formidable. Moi, je fais beaucoup de géothermie. Et comme Total sait faire des trous, Total devrait être le champion de la géothermie mondiale.
On a merci d'être venu, chers amis. Bon. Merci Gilles Raveau.
Guillaume, je peux dire un truc. Moi, je voudrais rendre hommage à mes camarades qui ont successivement mis au point le concept d'élasticité sur le slip français et de taxes comestibles pour la restauration. Ouais. Je trouve qu'on a été sur le plan sémantique, enfin vous avez été, pardon, particulièrement créatif ce matin.
Disait-il Philippe Manier en citant Guillaume Boisquenel et Gilles Raveau. On se retrouve demain à 9h. Enfin, si mes invités qui m'avaient dit oui m'annulent pas les uns après les autres, réalisant qu'il y a un pont, un viaduc, parce que c'est un peu ce qui se passe. Voilà, j'ai fait tout pour tenir le calendrier, mais il y a des moments.
Vous avez vu qu'on a suspendu la discussion sur la semaine de 4 jours.
Oui,
parce qu'il n'y avait pas assez de monde en fait pendant les ponts pour en discuter.
C'est génial.
C'est formidable.
Il y avait hier dans le Figaro, il y avait un sondage où ils sont très très partagés les gens quand on leur pose la question sur la semaine de 4 jours. On a fini. Rendez-vous demain 9h si tout va bien.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.